À rencontre spirituelle, aujourd'hui, Saint-Michel Carigoïtz. Carigoïtz, c'est G-A-R-I-C-O-I-T-S. Ce curieux nom, probablement nom basque. Ce saint qui était un tout petit berger de famille très simple, qui était domestique, et qui est devenu un très grand saint, a fondé une congrégation religieuse très renommée. Il est mort en 1863. C'est toute une aventure que sa vie, qui part de très loin, et qui s'est exercée dans un climat typique de cette époque d'austérité, à mon sens parfois invraisemblable, comme de manger de la viande qui n'est pas bonne, et puis des choses qui sont pas très bonnes pour la santé, quoi. Mais c'était fait avec un tel désir de bien faire que on comprend que ces saints qui sont inimitables et qu'il ne faut pas imiter dans ces choses-là ont quand même eu des vertus extraordinaires, et sa plus grande vertu peut-être c'était celle de l'humilité, qui est extraordinaire, vraiment remarquable. Donc Saint-Michel Carigoïtz est né en 1797, de la Révolution française, juste après, puis il est mort en 1863. C'est un des grands conquérants spirituels, donc, du siècle dernier. Un Basque, très authentique. Les Basques, ce sont ces gens qui ont une langue particulière, une culture particulière, dont la langue serait d'origine plus ou moins de l'Europe centrale, ou peut-être, dit-on parfois, d'origine égyptienne, on ne sait pas, mais ça n'a rien à voir avec l'espagnol ou le français. Et pourtant, ils vivent à la frontière des deux pays, le long de l'Atlantique. Et il a apporté à son ministère de prêtre, cet homme, auprès des âmes, tous les beaux aspects de son peuple, peuple courageux. Il est né à Ibar, le 15 avril 1797, dans une ferme, qui est aujourd'hui transformée en chapelle, une chapelle simple et rustique. C'est un lieu de pèlerinage. Les parents sont des chrétiens solides. Ils n'ont pas voulu être mariés par un prêtre assermenté en France, à la frontière française, là. Qui, en 1797, les prêtres étaient assermentés comme fidèles à l'État, ce qui les distanciait de Rome, selon leur perspective. Alors, les parents ont préféré franchir la frontière d'Espagne, c'était à 25 kilomètres, pour y faire bénir leur mariage par un prêtre en règle avec l'Église. Et tous les deux prennent bien soin de l'éducation très catholique de leur fils. Mais sa formation religieuse, c'est surtout à sa mère qu'il la doit, comme très souvent dans bien des foyers. Elle n'accable pas son enfant de discours pieux. C'est pas son genre. Elle lui fait pas des sermons compliqués. D'ailleurs, elle n'aurait pas été capable. Elle a sa manière toute simple, de femme très simple, d'attirer vers les choses de Dieu l'âme de son petit en partant des choses de la nature. Elle a une façon aussi de lui faire peur avec l'enfer, comme on faisait à l'époque. Quand les flammes ronflent dans le foyer de la cuisine, et qu'on voit jaillir du bois sec des espèces de petites gerbes d'étincelles, puis que ça crépite, là, elle dit à son Michel, « Mon petit Michel, t'es dans un feu bien plus terrible que Dieu jettera les enfants qui font le péché mortel. » On voit que c'est un enseignement très simple. Mais c'est peut-être pas si mauvais, au fond. Qui sait? Le petit Michel en frémit, évidemment, ça lui fait un peu peur. Et c'est par un enseignement de cette sorte qui régnait à l'époque, et comme au temps de ma jeunesse d'ailleurs, qu'il en vient à concevoir l'horreur du péché. Il éprouve une crainte de Dieu. Il voit Dieu comme un Dieu de colère. Chez les Basques, on n'aime pas les bavardages. On n'aime pas ce qu'on appelle les superfétations. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, j'imagine que oui. Et puis, on s'est rarement utilisé. La religion, chez les Basques, est centrée sur les quelques points fondamentaux qui en expriment tout le suc, tout ce qui fait cette foi catholique typique. Ce n'est pas dans les églises de ce pays-là que les statues Saint-Antoine sont roussies de cierges, alors que l'Eucharistie serait délaissée. Pas du tout. Ils sont centrés sur l'Eucharistie. C'est une foi solide. Toute sa vie, Michel Garigoïtz portera d'ailleurs cette simple et vigoureuse empreinte, qui n'est pas seulement venue de sa mère, qui s'appelle Graciane Garigoïtz. Graciane, j'appelle le nom parce que c'est un nom assez joli. G-R-A-T-I, puis Anne. C'est comme Grati, Anne. Graciane. Très joli nom. Il l'a reçu aussi de l'âme basque elle-même, cette empreinte vigoureuse. Il va dire d'ailleurs plus tard, sans ma mère, je serais devenu un scélérat. Oui, il y a de l'exagération là-dedans, mais il est sûr que son tempérament volcanique de jeune basque, qui est le sien d'ailleurs, ça aurait pu l'entraîner hors du chemin. Sa mère a su le former. Elle a su en tirer le meilleur parti. Sa première occupation, c'est quoi? Garder les moutons de son père, berger. Il a été placé plus tard comme domestique dans une ferme du voisinage où il garde encore les moutons. À 14 ans, par suite du jansénisme ambiant, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ces jours-ci, le jansénisme, il n'a pas encore fait sa première communion. Dans le jansénisme, on a peur de tout, on a surtout peur de Dieu, on a peur de sa colère, on frémit devant tout. Il en souffre de ne pas faire sa première communion. En 1823, finalement, après de longues périodes, puisqu'il est né en 97, là, il est ordonné prêtre, donc à 26 ans. La discipline du séminaire, secondée par ses efforts, a assoupli son caractère. Et de batailleur qu'il était, il est devenu souple et presque plein de douceur. Ça prenait un garçon batailleur parce que, quand il était domestique et berger, il économisait son argent pour payer ses études pour devenir prêtre. Alors, au grand séminaire, quand il est prêtre, on entend ses condisciples dire de lui « Saint Garigoïtz » ou encore « Notre Saint Louis de Gonzague ». Malgré tout, il n'est pas du type ennuyant. Non, il n'est pas ennuyant du tout. C'est un gars vivant, il est aimable, il est entraînant, puis il va le rester avec les années. D'un caractère jeune, malgré toutes ses pénitences. Au cru de ses pénitences, il y a le sens de l'humour. Après 2 ans comme vicaire, dans une paroisse, là, dans ce temps-là, il y avait encore des vicaires, jusqu'à tout récemment, maintenant c'est rare des vicaires, bien, il devient professeur de philosophie au grand séminaire de Bétaram. Ça vous dit quelque chose, Bétaram? Vous qui êtes allé à Lourdes, vous êtes allé peut-être à Bétaram, il y a un lieu de pèlerinage à la Vierge, là. Peu après son arrivée à Bétaram, les élèves du grand séminaire sont transférés à Bayonne, ça c'est en France, et Michel Garigoïtz n'est plus que le gardien du sanctuaire fameux qui est depuis longtemps comme l'incarnation de l'âme religieuse de tout un pays, de tout ce pays basque français. Histoire et légende sont mêlées là-dedans et on raconte qu'un jour, c'est si charmant cette histoire, que de petits bergers gardaient leurs troupeaux sur les pentes de la colline au pied de laquelle se dresse aujourd'hui la chapelle. Et puis, ils aperçoivent dans un buisson resplendissant de lumière la statue de la Vierge, une statue de la Vierge. Et là, ils préviennent le curé de la paroisse qui transporte la statue dans une niche de l'autre côté de la petite rivière. On appelle ça un gave, dans cette région-là. Le lendemain, la niche est vide. Imaginez, où est la Vierge? Mais la Vierge est revenue dans son buisson. Alors, le curé la porte alors dans l'église paroissiale. Là, il ferme les portes comme il faut. Le jour suivant, eh bien, la statue est trouvée encore sur le rocher où elle a été découverte. Alors, le curé se soumet, puis on lui élève à cet endroit abrupt une petite chapelle que visitent dans la suite de nombreux pèlerins. Il y a une autre légende ancienne qui rapporte qu'une jeune fille, c'est joli ça aussi cette légende, qu'une jeune fille qui cueillait des fleurs au bord de l'eau tombe dans les flots et elle est entraînée par le courant. Alors elle va se noyer. Quand, en invoquant la Sainte Vierge, la Vierge Marie, eh bien, elle est sauvée grâce à une branche, oui, une branche qui s'incline vers elle et l'aide à regagner la rive. Alors, en témoignage de reconnaissance, cette jeune fille offre à sa libératrice, la Sainte Vierge, un beau rameau d'or, une branche, quoi, d'or. De là, le nom Béarnais de Beth-Aram, beau rameau. Beth-Aram, ça veut dire beau rameau, qui est donné au quartier par la chapelle où s'est opéré le prodige. En langue béarnaise, hein, en France, il y a toutes sortes de patois comme ça, qui vivent encore. Cette chapelle devient vite célèbre. Elle est parée au XVIe siècle de toutes sortes de beaux ex-voto. C'est ça, des ex-voto, hein, je le dis pour les jeunes, là. C'est ces plaques ou bien des peintures qu'on met sur les murs en mémoire d'une faveur qu'on aurait obtenue. Et puis, la chapelle est pillée finalement et détruite vers 1569 par les protestants, là, dans les premières années des guerres de religion. En 1614, on la relève de ses ruines après les guerres de religion. Alors, tout le peuple basque, tout le peuple de la région aussi, ceux qui sont pas basques même, sont éparpillés sur le flanc et au pied de cette prairie des Pyrénées, n'est-ce pas, les boules de montagne du sud de la France, près de l'Espagne. Ben, ils vont s'alimenter là pour nourrir leur foi. On fait des pèlerinages. On y charrie quoi? Ben, ses espérances, hein, comme dans les lieux de pèlerinage, on y charrie des gémissements. Puis, une fois par année, bien, au cours d'un grand pèlerinage qui a lieu au mois de septembre, on y élève un cœur de plusieurs milliers de voix. Et c'est la confiance qui règne. Puis on fait des processions sur les pentes des collines, là, très très hautes, qui jalonnent les stations d'un calvaire. Le programme et c'est là que va vivre désormais Michel Garrigoïd. Il partage son temps entre Beth-Aram, où il ne cesse de prêcher et de confesser, puis le couvent d'Igon, I-G-O-N, qui est distant de 4 kilomètres. C'est là que se trouve une importante communauté des filles de la Croix, qui sont vouées surtout à l'évangélisation des masses populaires. Et bien vite, l'idée vient au père Garrigoïd de fonder une congrégation destinée à l'éducation et à la formation religieuse du peuple ouvrier et paysan. Et il s'écrit, ah, si l'on pouvait réunir une société de prêtres, oui, une vraie, qui aurait pour programme le programme du cœur de Jésus. Le programme de cette communauté serait le programme du cœur de Jésus, qui vient du Père éternel. Lui, Jésus, qui est le serviteur du Père céleste. Alors, qu'est-ce que ce serait, dit-il? Ben, ce serait le dévouement, puis l'obéissance absolue, puis la simplicité parfaite, la douceur inaltérable de ses prêtres serait un véritable camp volant de soldats d'élite, prêts à courir au premier signal des chefs, partout ils seraient appelés, même et surtout dans les ministères les plus difficiles, et dont les autres ne voudraient pas. Nous revenons à Saint-Michel Garrigoïd, qui veut fonder une congrégation religieuse et qui se laisse influencer par Saint-Ignace de Loyola, un autre saint basque, comme vous savez. Et il tire de la vie d'Ignace de Loyola puis des jésuites la conception d'équipes volantes pourvues d'une extrême faculté de mobilité. Des équipes qui foncent, hein, sur un signe du pape au besoin et qui se dirigent sur tous les points menacés de la chrétienté. Mais c'était comme ça les jésuites il n'y a pas si longtemps, j'espère qu'ils le sont toujours. Je vous ai dit qu'ils s'occupaient des religieuses. Qu'est-ce qu'il disait aux religieuses, aux filles de la Croix? Il dirait, seriez-vous la plus grande pécheresse du monde si le bon Dieu vous laisse une minute pour implorer sa miséricorde et dire, mon Dieu, ayez pitié de moi. Eh bien, vous êtes sauvée et vous pouvez devenir une grande sainte. Et devant toute la communauté des filles de la Croix, il achève un jour un colloque en méditant comme ça, mes sœurs, vous ne savez pas si vous êtes digne d'amour ou de haine, et je ne le sais pas non plus pour moi. Mais quand bien même un ange viendrait m'apprendre que toute ma vie n'a été qu'une série sacrilège, je ne désespérerai pas. Quand je n'aurai que quelques minutes à vivre. Savez-vous ce que je ferai? Je me jetterai entre les bras du Père. je crierai « Père, Père, pardonnez-moi. » Et je suis sûr qu'il me pardonnerait comme le père de l'enfant prodigue. Et pour sa communauté qu'il fonde à Bétharam, il en tenait un beau champ d'espérance. C'est très beau. Hein? J'aurais été un scélérat toute ma vie. J'aurais commis depuis l'âge de 7 ans tous les crimes. J'aurais entassé tous les sacrilèges depuis ma prêtrise. En me rendant Digon chez les sœurs, à Bétharam chez les pères, je tombe de cheval dans un fossé sans confesseur, sans secours et sans espoir, n'ayant que 2 minutes à vivre pour implorer pardon. Eh bien, je me jetterai à corps perdu dans les bras de la miséricorde divine. Je dirai à Dieu, de cœur et non de bouche, « Seigneur, je suis bien indigne et très grand pécheur, mais une parole, un regard, je serai sauvé. Oh, j'ai tant de confiance en la miséricorde de Dieu que je m'estimerais l'homme le plus heureux du monde. Ma situation serait belle, belle, magnifique. » Tout ça, ça date du milieu du siècle dernier, et même plus tôt, vers 1850 à peu près. Ici et là, domine chez lui la volonté d'une mobilisation spirituelle foudroyante. Il veut entraîner des cœurs brûlants, surtout lorsque le mal et l'erreur sont partout répandus, puis ça corrompt même l'Église. Il voit ça au sein de l'Église. C'est une véritable contre-offensive, comme Ignace de Loyola contre la réforme protestante. Alors lui, c'est une lutte du même type dont rêve ce bon père Garrigoïtz contre la grande désolation au lendemain de la Révolution. Le clergé a profondément besoin d'une rénovation spirituelle à son avis. Et partout, ce n'est que ruine et reconstruction encore incertaine. Il y a eu tellement de destruction. Alors, ils fondent donc les prêtres auxiliaires du Sacré-Cœur de Jésus. Ben, ne pas confondre avec les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus fondés par le père de Hon. Il y a la maison de Hon à Montréal. Faut pas confondre ça non plus avec les missionnaires du Sacré-Cœur fondés par l'abbé Jules Chevalier, qui dirige la revue RND, la revue Notre-Dame. Ni non plus les pères des Sacré-Cœurs fondé par le père Coudrin, si je me souviens bien, puis la comtesse Henriette Aimée de la Chevalerie. Rien à voir. Alors, les premiers vœux de ces bons prêtres auxiliaires du Sacré-Cœur de Jésus ont lieu en 1841. Alors, ce que je viens de vous lire sur la miséricorde, là, ça date d'il y a longtemps, 150 ans. Qu'on vienne pas me dire que c'est tout nouveau, qu'on vient de découvrir ça au 20e siècle, ça me fatigue, moi. Ça règne toujours dans l'Église, cette pensée qui vient de la parabole de l'enfant prodigue et de l'enseignement de l'amour de Dieu. Alors, c'est le jansénisme qui a détruit tout ça en partie. Alors, ces prêtres se mettent à des tâches d'enseignement dans lesquelles ils réussissent en France, aussi bien que de l'autre côté de l'océan, dans différentes parties de l'Amérique, où ils sont demandés très rapidement. Et le père Garrigoïtz, lui, enseigne comment mener à Dieu les âmes. Comment? Bien, en les entraînant par des formules qui traduisent quoi? Les énergies puis les enthousiasmes d'une âme elle-même toute consacrée à Dieu et toute passionnée de Dieu. Mais il est usé avant l'âge par toutes sortes de travaux puis l'austérité extraordinaire de sa vie, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure. Il ne dort par exemple que 3 heures par nuit. Il ne fait qu'un seul repas par jour, très frugal, une petite affaire. Le matin, mais il boit un but de chocolat, un petit morceau de pain. C'est le soir qu'il fait son repas frugal, c'est tout. Alors finalement, en 1863, 66 ans, ce bon père Michel Garrigoïtz meurt le jour même de l'Ascension, le 14 mai. Il est béatifié par Pie XI en 1923 et canonisé en 1947 par Pie XII. Mais puisque c'est le mois de Marie, on pourrait faire quelque chose d'un peu spécial. On pourrait se demander, le mois de Marie, hein, c'est le mois de mai, le mois consacré à Marie, comme je le dis pour les jeunes. Hein. On peut se demander, en examinant de plus près la vie et la pensée de Saint-Michel, Garriga Coïts, quelle place il a donné dans sa piété, on pourrait dire, à la Très Sainte Vierge, hein? On est sûr qu'il a été l'homme de la volonté de Dieu tout d'abord. Aimer la volonté de Dieu. Qui veut notre bonheur? La volonté de Dieu, c'est une volonté de bonheur. Cessons de penser que la volonté de Dieu est méchante. Elle n'est pas méchante. C'est celle d'un bon père qui a un cœur de mère, la volonté de Dieu. Et c'est facile donc de lui obéir. Et c'est facile alors de se mortifier un peu pour se discipliner pour mieux lui obéir. Et cela lui apparaît très vite. Chez lui, c'est très très clair. Mais est-ce que c'est possible cependant que sa sainteté imminente ait été édifiée sans que la Sainte Vierge y ait eu une bonne part? Est-ce que c'est vraisemblable que, puisqu'il a institué sa nouvelle congrégation tout près d'un sanctuaire de la Vierge à Bétharam, il n'aurait pas reçu des consignes toutes spéciales de dévouement puis d'amour à l'égard de celle qu'il aimait bien appeler la Reine du Ciel? Et se peut-il qu'ayant vécu plus de 30 ans près de Notre-Dame, à Bétharam, et c'est pas tellement loin de Lourdes, et qu'il ait pu célébrer quotidiennement sa messe dans un sanctuaire marial, qui ne cesse de visiter, puis souvent très long, pendant de longues périodes, mais se peut-il que Saint-Michel Garrigoït n'ait pas eu des sentiments d'amour filial à l'égard de celle qu'en toute vérité nous appelons tout le monde et notre mère? Et écoutez, ceux qui ont témoigné au procès de béatification s'aperçoivent bien vite de la place que Michel Garrigoït faisait dans son cœur à la piété envers la Vierge Marie. Je vous extrais quelques paroles qui ont été prononcées à ce moment-là. Il avait une dévotion spéciale à la Très Sainte Vierge. Ça revient souvent, ça. Il y a un frère convert qui dit, le père Garrigoït avait la folie de la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Bon, c'est une bonne folie, après tout, quand on y pense. Je reviens donc à Saint-Michel Garrigoït, dont il est question aujourd'hui, mais il y a des faits très intéressants qui montrent la grande piété mariale de Michel Garrigoït. Je vous parle de ça puisque c'est le mois de mai, hein, et que c'est très important d'avoir une bonne dévotion à Marie, qui est quand même la créature la plus sublime que Dieu ait créée. Elle est reine du ciel, elle est notre mère, elle est la mère de Dieu. C'est quand même pas rien, hein. Quand j'entends, malheureusement, quelques protestants nous dire que nous exagérons, bon, peut-être. Mais me semble que ça leur arrive d'exagérer dans l'autre côté, ils n'y pensent pas, Marie. C'est un peu comme si je recevais quelqu'un chez moi, et ma mère serait là et il ne lui parlerait pas. On se mettrait à table et ne lui parlerait pas. Il partirait et ne la saluerait pas. Je me dirais, c'est impensable. Ce serait pas très gentil, très poli, me semble. Alors, on disait de Michel Garrigoït qu'il appelait Marie, justement, notre mère, avec une affection toute particulière. Il ne disait pas ça, c'est notre mère. Il avait une façon de le dire, remarquable, très belle. Et encore, ses actions principales, dit-on, ses études, il y commençait toutes en invoquant Marie. Et comme la bouche parle de l'abondance du cœur, on a remarqué qu'il prononçait très souvent son nom. Il faisait aucune instruction sans qu'elle y soit mentionnée, d'ailleurs. Il prêchait volontiers au fait de la Sainte Vierge des instructions suivies sur sa vie. Oui, la vie de la Vierge, les vertus de la Vierge. Ce sont là des preuves irrécusables d'une piété mariale profondément enracinée dans son cœur, hein? Il y en a d'autres. Quand il s'agit de préciser les prières de Saint-Michel Garrigoït, on a rappelé surtout ses prières à la Vierge, très belles. Saint-Michel Garrigoït avait une grande dévotion au rosaire. Il faisait partie, évidemment, de l'association du rosaire, qui était très populaire, de l'association du rosaire perpétuel. Puis il avait pris pour heure, on s'assignait une heure dans ce temps-là, et quelle était l'heure qu'il avait choisie? 3 heures du matin. C'était d'ailleurs l'heure habituelle de son lever. Le premier moment de sa journée était donc consacré à Marie. Les dizaines de chapelets se succédaient le long des heures, et le chapelet ne le quittait pas souvent. Et il le portait soit à la main, soit suspendu à son cou dans ses allées et venues. Sa piété lui avait suggéré ce moyen de ne pas perdre de temps. Hein. Et il recommandait la couronne franciscaine aussi, il la récitait lui-même chaque jour, ainsi que le rosaire entier, c'est-à-dire 3 chapelets. Je serais incapable de faire ça. Je le trouve héroïque. Et naturellement, il a fait passer dans le règlement de la maison quelques-unes de ses pratiques mariales. C'est ainsi que, sur son ordre, la prière du soir traditionnelle était complétée par des prières suivantes. Je les cite en latin. Vous les reconnaîtrez, les gens plus âgés. Ave Maristella, Subtuum, Presidium, n'est-ce pas? Memorare, et l'oraison Defende Quaesumus. C'est une tradition dans ces instituts, ça vient de lui, de terminer toujours la récitation de l'Office divin par le Subtuum. Je suis surpris d'apprendre ça parce que je sais que dans les monastères aujourd'hui, au XXe siècle, l'Office se termine toujours comme ça par le Salve Regina, ou à certains moments de l'année par d'autres prières selon la liturgie. À la Vierge, le dernier chant avant d'aller se coucher. La prière qui semble avoir eu la préférence du Père Garrigoy, c'est le Magnificat. Très beau. Vous connaissez ça, hein? Ce chant du Magnificat de la Vierge, là, quand elle rencontre sa cousine Élisabeth. Un beau chant viril, hein? Où on nous dit que... Viril, excusez-moi. Courageux, fort. Je retire le mot viril. C'est un chant courageux, hein? Je disais déjà à une personne qui disait « La Sainte Vierge, bah, elle a seulement dit oui. » Je lui ai lu ce texte dans Saint-Luc. Elle dit « C'est beau. » Mais je dis « Vous voyez, elle parle comme Michel Chartrand. » Parce qu'elle dit, la Sainte Vierge, que les puissants vont tomber de leur trône, n'est-ce pas? Excusez-moi de la comparer à Michel Chartrand. Mais Michel Chartrand, vous savez, c'est un bon catholique. Hein? Un ancien trappiste. On ne le sait pas, on ne connaît pas la vie intérieure de Michel Chartrand qui est grande. Un des témoins qui a visité la famille où il a résidé le plus longtemps nous dit qu'on lui a montré les champs où Michel Garrigoy, son enfant, faisait paître les troupeaux. Et même quand il était enfant comme ça, il chantait le Magnificat. Ce souvenir était resté attaché à la terre. Hein? Et Saint-Michel Garrigoy, dans une de ses lettres, il montre bien sa prédilection pour ce cantique sublime qu'il recommande, hein, que le Magnificat soit votre cantique préféré. C'est l'expression fidèle de vos sentiments. J'aurais le goût de vous le lire tellement c'est beau, mais vous le connaissez tous par cœur. Hein? Alors le scapulaire, qui est le vêtement des fils de Marie, ne l'abandonne jamais. Il lui arrive même de dire un jour qu'il ne s'en dépouille jamais, jamais, jamais. Même en changeant de linge. Et l'image de la Madone orne sa chambre. En un mot, c'est ingénié pour que le souvenir de Marie soit toujours présent à son esprit. Pourquoi pas? Et avec quelle ferveur il célèbre, ou faisait célébrer même, les fêtes mariales. Et chaque mois, le premier samedi, c'est un peu comme à la cathédrale, ça, la messe de la Sainte Vierge est solennellement chantée, en présence de toute la communauté, sans exception cependant, c'est chez lui. Et il reprend sévèrement, mais charitablement, un jour deux pères qui ont négligé d'y assister. Il est sévère des fois, hein? Et lui-même, ben, il se réserve de chanter la messe. Puis les frères, ils font la communion, parce qu'on communiait pas tous les jours dans ce temps-là. Le jansénisme. La cérémonie se termine par le chant du Salve Regina, où on a gardé le souvenir de l'ardeur avec laquelle Saint-Michel Garrigoy prenait part à ce chant. Et le mois de Marie, bien, a lieu chaque année. Même avant qu'il ne soit établi dans le diocèse, on le voit, le père Garrigoy a institué un véritable réseau d'exercices publics en l'honneur de la Vierge, et le sanctuaire le demande, pensera-t-on. Oh, c'est vrai. Mais sa piété forte, là, de ce bon père Garrigoy l'a imposé aux besoins. Et déjà, il se montre un précurseur dans ce sens-là. Hein? Et que de visites il a faites à ce sanctuaire de Betharam, confié à sa garde. Devant le maître-autel, il est absorbé en prière. Son regard et son cœur, bien, vont spontanément du tabernacle à la statue de la Sainte Vierge. C'est ce qui fait l'étonnement un jour d'un protestant qui se cache derrière un pilier, paraît-il, pour voir comment se comporte ce prêtre dont on dit qu'il est un saint. Et en présence d'une telle foi et d'une telle ardeur à la présence réelle et son amour à la Vierge, ce protestant est touché. Il se convertit. Il a compris l'importance de Marie, mère de Jésus, mère de Dieu. Le pèlerinage, c'est l'objet de tous les soins de Saint-Michel Garrigoy. Dans les premiers temps, il prêche pour les pèlerins tous les dimanches à la chapelle. Et ça va jusqu'à l'héroïsme. Il établit que pour favoriser les pèlerinages, une messe se dira chaque jour à 10 heures, malgré ses occupations écrasantes. Puis pour pas charger ses confrères, ben c'est lui qui célèbre. Quand il se trouve à Betharam, évidemment. Malgré la pauvreté des origines de tout ça, de tout ce lieu de pèlerinage, Il restaure l'ancien calvaire pour attirer des pèlerinages à Bétharam. Puis à bout de ressources, il n'y a plus d'argent, il n'hésite pas à quitter. Un peu plus tard, il songe à construire un collège. Il le met dès son origine sous la protection de Marie. La foi des anciens avait fait reculer les rochers, n'est-ce pas, au bord du Gave pour y bâtir la chapelle de la Vierge, puisque la Sainte Vierge avait choisi, vous savez, je vous ai raconté l'histoire au début, là, avait choisi cette rive, qui est assez escarpée. Alors, la même pensée le guide, et on a beau lui représenter que de l'autre côté de cette petite rivière du Gave, là, s'étendent des prairies prêtes à recevoir un grand édifice, le père Garrigoïde s'y refuse. Il dit, la Sainte Vierge a choisi Bétharam, et je suis d'avis que nous nous arrangions ici, comme nous le pourrons. Et au besoin, bien, Notre-Dame nous tiendra lieu de tout. Là, un travail gigantesque commence. Il faut niveler le rocher, déplacer de la terre, étrécir le lit de cette petite rivière du Gave, pour ménager l'esplanade de la bâtisse. Et petit à petit, le collège s'élève, s'étend sur les bords du Gave, porte le nom de la Vierge et l'école Notre-Dame. L'impression est nette. Comme les diverses œuvres du bienheureux Garrigoïde sont groupées à Bétharam autour du sanctuaire, ses pensées, ses sentiments gravitent autour de Marie, puis à défaut de documents sensationnels, il suffit de quelques indices pour nous laisser entrevoir qu'il est, on pourrait dire, au siècle dernier, un des grands serviteurs de Marie. Si l'amour du père Garrigoïde pour Notre-Dame est profond, c'est d'abord et surtout parce qu'il est éclairé. Il ne peut pas en être autrement avec un prêtre qui est, malgré tout, jusqu'à un certain point, un théologien, puis un penseur. Ses écrits révèlent de bonnes idées, puis un bon style. C'est pas un grand théologien, mais c'est quand même un homme intelligent, qui a étudié, qui a écrit. Et d'accord, il n'a pas composé de traités dogmatiques relatifs à la Sainte Vierge, comme d'autres. Mais c'est pas si difficile de dégager de ses paroles, puis de ses lettres, quelques-unes de ses pensées préférées. Ses pensées sont justes. Et sur plus d'un point, Saint-Michel Garrigoïde fait figure de précurseur. On a pu affirmer sans exagération que la vertu dominante de ce saint, et comme il s'exprimait lui-même, cette belle dévotion à la volonté de Dieu. On peut appeler ça une dévotion, pourquoi pas. C'est pas une dévotion, c'est l'état naturel du chrétien. Aimer la volonté de Dieu, qui est tout amour. Alors il recommande cette dévotion, entre guillemets, avec la plus grande conviction de son âme, et pour mieux la graver dans l'esprit de ses disciples, il aime se servir de devises brèves, fort, sonore, qui forme une bonne conclusion à tous ces développements. Alors, on connaît quelques-unes de ces formules. Hein? Je viens, que la volonté de Dieu soit faite. Mon Dieu est mon tout. Ça, j'aime beaucoup ça. Mon Dieu est mon tout. Ô les cœurs, ou bien, aimez et faites ce que vous voudrez. Mais oui, si vous aimez, vous faites tout ce que vous voulez, parce que vous ne voulez que ce que vous aimez. Faites bien ce que vous faites aussi. Il aimait répéter ça. Mais quand il veut indiquer le parfait modèle de la soumission à la volonté de Dieu, c'est de la Vierge qu'il parle, de la Vierge de l'Incarnation qui dit oui, et de la Vierge au pied de la croix, qui partage la douleur de son Fils, qui est rejeté par l'humanité et qui manque d'amour. Dans les mystères, dit-il, de l'Incarnation, quelle action puissante de la part de Dieu dans le sein de la Vierge? Il ajoute, Marie apporte le sublime dessein, au sublime projet, une parfaite coopération. Elle s'abaisse, voici la servante du Seigneur. Elle obéit dans les élans d'une foi et d'une charité héroïque, qu'il me soit fait selon ta parole. On peut dire que ces mêmes paroles, le fondateur, les prête volontiers à la Vierge, qui pleure au pied de la croix. Elle est là, debout, souffrant, des peines qu'on peut pas imaginer, évidemment, mais sans se plaindre vraiment, sans demander un changement de position. Elle est, finalement, dit-il, au fond de son cœur, contente et heureuse de ce que Dieu a fait, finalement. Comme au jour où l'ange l'a saluée, mère de Dieu, en disant, « Voici la servante du Seigneur. » Oui, je suis la servante du Seigneur. Elle est parfaitement soumise, dit-il, à sa volonté, toujours également grande, également forte, toujours égale à elle-même. Et pour indiquer la souveraineté de Marie sur le monastère et sur l'œuvre de Bétharam, Le père Garrigoïde se sert d'une expression pittoresque et imagée. Hein. Il appelle la Sainte Vierge la maîtresse de la maison. C'est elle qui veille, qui inspire. Elle est... il est plein de délicatesse à son égard. Hein. Il veut donner à la Vierge le titre inspiré d'un de ses confrères, Notre-Dame, mère et maîtresse. De toute manière, Marie est la Providence, on pourrait dire jusqu'à un certain point, de son serviteur. C'est la Vierge de Bétharam, hein, qui lui inspire la fondation de son institut des prêtres du Sacré-Cœur. Dans le sanctuaire, où il y a de l'or des vieux bois, là, il y a une scène lumineuse, hein, on peut voir ça. Saint-Michel Garrigoïde est à genoux sur les degrés de marbre blanc. Il consulte la maîtresse de la maison, qui intérieurement lui répond « Oui, ton idée vient de Dieu, va, fonde l'Institut des prêtres. » Le serviteur de Marie se lève, résolu et fortifié. L'Institut est né dans son cœur, sous le regard de la Vierge. Alors le fondateur se trouve-t-il souffrant? Bien, la maîtresse de la maison intervient, parfois pour le guérir. En proie à des douleurs sciatiques très violentes, arrive le jour de l'Annonciation, le 25 mars, fête de la Vierge, là. Et à la grande surprise de tous, il se lève, il va célébrer la Sainte Messe, puis revient guéri. La ferveur de son âme lui fait oublier la souffrance. Mais qui pourrait s'en étonner, hein? Une messe à la Sainte Vierge pour lui. C'est déjà un ange à l'autel, ce prêtre. Lui qui dit, pour s'excuser de certains élans d'amour durant son sacrifice, il dit, oh, comment y tenir, tellement il aime célébrer. Il y a une autre épreuve, la caisse de la communauté est vide, bien souvent, mais au moment où les créanciers pressent le fondateur, eh bien, on trouve 600 francs sur l'autel, dans la chapelle. C'est arrivé comme ça. Et Saint-Michel Garrigoïde, on peut dire, est un précurseur dans le domaine théologique. Bah, il défend l'infaillibilité pontificale avant le temps. Il impose le bréviaire romain, alors que le clergé français se sert plutôt du bréviaire gallican. Et surtout, il admet à la communion fréquente et même quotidienne à une époque où l'esprit janséniste survit toujours. Et il croit de même à l'Immaculée Conception avant la proclamation de Pie IX. Il avait, paraît-il, la plus grande dévotion à l'Immaculée Conception, dit les témoins. Et il le montre, il en parle. Et lorsqu'en 1958, la Sainte Vierge apparaît à Lourdes, tout près de Bétharam, pour confirmer la décision du pape, sa joie est immense. Il n'y a pas de jalousie chez lui. Il n'a pas peur de perdre une clientèle, comme on pourrait dire méchamment. Non, il est tout dévoué à ce que Dieu fait et à ce que Marie fait. Saint-Michel Garrigoïde, quand arrivent les apparitions de Lourdes, il est le premier à envoyer à l'évêque de Tarbes, responsable de Lourdes, son offrande pour la construction d'une chapelle. Alors, il n'a pas de jalousie chez lui. Il est le responsable d'un sanctuaire à la Vierge. Il voit que ça va se déplacer, mais ça le dérange pas. Il écrit au supérieur de la Fondation d'Amérique, d'ailleurs, pour l'engager à faire comme lui, parce qu'il l'a fondé en Amérique avec ses prêtres. On ne manque pas de lui représenter que le pèlerinage de Lourdes va nuire à Bétharam. Pas, il peut pas souffrir cette objection. Il aime trop la volonté de Dieu. Il aime trop Marie. Il répond avec un petit geste de tendresse. Il murmure avec un sourire. Et la Sainte Vierge? Et la Sainte Vierge? Comme pour dire, elle a ses raisons. Pourvu que gloire lui soit rendue, cela le seul importe, hein. Alors l'avenir va justifier sa confiance. Bétharam, loin de perdre, y a gagné. Les foules de Lourdes aiment à visiter souvent ce sanctuaire. Chaque année, des groupes importants quittent la grotte des Pyrénées à Lourdes pour voir Bétharam, qui a été le Lourdes d'autrefois. On pourrait raconter cette histoire de l'enfant de 5 ans que Saint-Michel Garrigoïde raconte un jour à un pénitent pour le réconforter. Je vous la raconte, petite histoire, pourquoi pas, hein? Un jour, la Sainte Vierge apparaît à un enfant de 5 ans. « Ma fille, lui dit-elle, il faut que tu deviennes l'épouse du roi des cieux. »« Moi, répond l'enfant, je suis la fille d'un pauvre artisan et je n'ai pas de dot à offrir à mon époux. »« La seule dot ou dot qu'il réclame, dit la Sainte Vierge, c'est ton cœur. »« Et la jeune fille de répliquer avec la candeur de son âge, « Mais je ne sais où se trouve mon cœur. Je ne sais où se trouve mon cœur. » Et elle lui dit, « Marie, il est là, en posant sa main sur la poitrine de l'enfant. Voilà la dot du célèbre époux. Hâte-toi de lui donner ton cœur. » Et Saint-Michel Garrigues conclut, « Notre cœur, donnons-le donc sans partage. » Alors on comprend que depuis longtemps, lui-même a donné son cœur. Et c'est sans doute sous l'inspiration de la Vierge. Pour résumer sa piété mariale, il y a un artiste qui l'a montré dans une verrière lumineuse, dans la chapelle, là-bas, à Bétharam, parmi les saints, là. Et puis, la Vierge reçoit son serviteur fidèle. Puis elle le couronne, vous savez, du nimbe des saints. Cette même idée a présidé la composition de l'image populaire que l'on voit de Saint-Michel Garrigues, qui montre d'un geste large à Notre-Dame du beau rameau toute la vallée de Bétharam, sa petite rivière, son monastère, son calvaire, comme pour lui dire, « C'est là, Marie, que je vous ai servi. C'est là que je vous ai aimé et c'est là que je vous ai déclaré maîtresse de la maison. » Et parce que la piété continue et se perfectionne au ciel, ben on imagine bien que parmi les élus, bien un des plus ardents serviteurs de la Sainte Vierge au ciel, c'est encore lui, et que son geste éternel de présentation comme ça, là, voudra à ceux qui le prient avec ferveur un peu de sa vertu. Hein? Oui, en le priant, peut-être obtiendrons-nous un peu de sa vertu, de sa gaieté aussi, une grande gaieté morale, puis de sa sainteté. Pour terminer, j'aimerais vous lire des extraits de ce qu'il disait. C'est tellement étonnant, on reste bouche bée. Il dit des choses très courageuses. L'humilité, dit-il, se heurte à deux grands obstacles. L'amour-propre et l'orgueil. Sur le monde, l'amour-propre sévit comme une épidémie. Dans les familles chrétiennes, dans le clergé, l'amour-propre, oui. Et jusque dans les communautés religieuses, que voyons-nous, dit Saint-Michel Garrigues, que voyons-nous, hélas, trop souvent, le souci du moi, le moi, la fin des choses et des meilleures choses. Et alors, comme tout est abaissé, dégradé dans le sensualisme, tout tombe et s'avilit, la philosophie, la théologie, les caractères et les ministères les plus élevés, ajoute Saint-Michel. On ne voit que soi, on ne pense qu'à soi. De là toutes ces préoccupations terrestres où se perdent les gens du monde. C'est dans sa doctrine spirituelle qu'on peut lire ça. Il y a aussi, il dit, au sujet de l'excessive recherche de soi, bien, Saint-Michel décèle comme le venin du péché originel, c'est-à-dire ce péché qui a pénétré le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes depuis toujours. Dans ce monde, bien des gens abandonnent les sources de la grâce, se dérobent aux sacrements divinement institués. Ils courent s'inscrire à l'école des spirites et par leur médium à l'école de Satan. Ne serions-nous pas nous-mêmes les tristes jouets d'erreurs semblables? Ne nous mettons-nous pas trop souvent en rapport avec l'esprit satanique par le médium de nos volontés propres, de nos idées propres? Alors, sous ces diverses formes, l'amour propre constitue un danger spirituel, croit-il. D'abord, dans l'ordre intellectuel, il dit « Les idées propres, voilà le fléau de tout bien. » C'est bon d'avoir des idées personnelles, mais pas des idées qui vont à l'encontre de celles qui sont fondamentales dans l'Église. Il dit aussi « La volonté propre est une escamoteuse qui nous ravit le mérite de nos actions, qui nous dépouille d'immenses richesses. Ôtez la volonté propre, ni le démon, ni le monde, ni la concupiscence ne pourront rien sur nous. Ôtez l'esprit propre, la volonté propre, il n'y aura plus d'enfer. Sachez et faites savoir à quiconque pourra y avoir intérêt que c'est un parti pris chez moi de détester cordialement, chez moi et chez les autres, tant que j'en serai chargé, toute volonté propre de la combattre et de m'efforcer de l'exterminer autant qu'il sera en moi. Il ajoute plutôt mourir que de renoncer à cela. C'est vraiment un saint qui parle. Il parle de l'orgueil ici. Voici la source de tout mal, la plaie la plus profonde. Il n'y a qu'à voir une distribution de prix, comme on y est enfariné de vaine gloire. Et dans le temps, dans les écoles, les gens qui ont des médailles, des prix puis des trophées, le bonheur qu'ils ressentent, j'espère qu'ils le rendent à Dieu. On entend ça souvent aux États-Unis. God bless you, thank God. Au moins, y a-t-il peut-être une foi profonde chez ces gens-là. Il dit, c'est notre orgueil. Voilà ce qui agite, ce qui nous indigne, ce qui nous rend la vie amère, insupportable. La vérité est que nul n'entre au ciel que par la porte de son néant. Si quelqu'un disait le contraire, quand ce serait un ange, je lui dirais anathème. Anathème, ça veut dire condamné. C'est avec plus de vigueur que le fondateur de Betharam, le domaine spirituel, en soulignait le néant des créatures. Si on lui demande qu'est-ce que l'homme, il répond catégoriquement rien, absolument rien. Il dit moi rien, moi néant, je ne suis que néant et que péché. Nous ne sommes rien. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu est tout et que si on accepte Dieu vraiment là, et si j'ai quelque chose de bon, je le dois à Dieu qui me le donne, qui me le conserve, en concourant plus que moi-même, comme quoi il y concourt lui-même, à sa production et à sa conservation. Il reconnaît bien les grâces de Dieu. Il sait bien que ce que Dieu fait en nous, nous collaborons avec lui. Et dans l'Évangile aujourd'hui, c'est le bel Évangile. « Je vous appelle mes amis », c'est Jésus qui parle. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Il nous accorde toujours de la sainteté si on la lui demande. Je croirai qu'il la donne. Ce que je vous commande, en tout cas, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. » Des belles paroles fondamentales de notre foi.